C'est le podcast numéro 2 de Societal Angels et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Bricat, qui est donc chercheur socio-économiste de l'alimentation au CIRAD à Montpellier et titulaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Pour démarrer, j'aimerais que vous puissiez vous présenter, nous expliquer qui vous êtes en quelques mots. Votre chaire, ses missions. Il y a deux mots aussi qui m'ont interpellé, c'est socio-économiste de l'alimentation et UNESCO. Alors voilà, si vous pouviez nous expliquer, nous éclairer un peu ces deux dimensions, la vôtre et puis la dimension de votre chaire.
Bon, écoutez, bonjour et merci. Socio-économiste, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une double formation. En fait, au départ, j'ai une formation d'agronome et ensuite j'ai une double formation à la fois d'économie du développement et de socio-anthropologie de l'alimentation. Et je reconnais que les enjeux de l'alimentation... Ce ne sont pas uniquement de se remplir le ventre avec des nutriments, ce sont aussi des enjeux sociaux, ce sont aussi des enjeux culturels, ce sont des enjeux hédoniques, des enjeux de plaisir, et que selon les niveaux de vie qu'on a, et donc selon le niveau économique qu'on a, eh ben on n'a pas les mêmes accès, les mêmes possibilités de se nourrir. Donc je m'intéresse autant à ces dimensions sociales, culturelles, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de manger, etc., que aux contraintes économiques qui font qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de gens dans un pays d'abondance qui n'arrivent pas à manger correctement. Et c'est pour ça que je dis que je suis socio-économiste, parce que j'utilise à la fois des outils de la sociologie et de l'économie. Alors la chaire UNESCO Alimentation du Monde, en fait, une chaire UNESCO, c'est un programme de travail qui est labellisé par l'UNESCO. C'est une labellisation qu'on peut obtenir pour 4 ans et qui peut se renouveler. Alors, on est au quatrième renouvellement et qui a une double fonction. D'une part, d'organiser un dialogue interdisciplinaire sur les questions et les enjeux contemporains de l'alimentation. Et d'autre part, d'organiser un dialogue entre science et société. Et quand je dis société, c'est les politiques à l'échelle locale ou nationale ou internationale, la société civile et en particulier celle qui milite pour un changement de système alimentaire, et puis enfin les entreprises qui aussi essayent de commencer à contribuer à ce changement. Donc on organise de la diffusion de savoir, du dialogue entre société, science et société. On monte des programmes de recherche et on anime un master spécialisé qui s'appelle Innovation et politique pour une alimentation durable, qui est à Montpellier, qui est sous l'égide de l'Institut Agro de Montpellier et du CIRAD, la structure qui m'emploie, et qui forme des cadres qui vont travailler ensuite dans les collectivités territoriales et dans diverses structures qui œuvrent à une alimentation durable.
Le CIRAD, en deux mots, qu'est-ce que c'est ?
Le CIRAD, c'est un établissement public de recherche sur les questions agricoles et alimentaires à l'international, beaucoup dédié à l'Afrique, Asie, Amérique latine et Dom-Tom, et qui fait de la recherche en coopération avec des structures de recherche nationales ou internationales dans ces pays.
Ma première question concerne en fait les enjeux et les freins à la transformation. À votre avis, comment vous les listez en fait, tous ces enjeux, et comment vous les appréhendez pour qu'en fait on puisse transformer nos politiques agricoles et alimentaires?
Alors, le système alimentaire des pays industrialisés, c'est un système qui est fondé sur l'usage de ressources non renouvelables, de l'énergie fossile, des ressources fertilisantes fossiles, avec beaucoup de chimie, beaucoup d'économies d'échelle et du coup beaucoup de spécialisation, et qui a permis de nourrir le monde, et en particulier pendant le XXe siècle, et qui a permis aujourd'hui qu'on soit plus de 7 milliards sur la planète à peu près nourris correctement. Ce système, il est aujourd'hui un peu à bout de souffle parce qu'il génère beaucoup de problèmes environnementaux. Il épuise ou il surexploite des ressources, le pétrole, le phosphate pour fertiliser les sols, donc toutes les ressources fossiles, et il sature les milieux. Il pollue à l'azote, il pollue aux résidus de pesticides.
La biodiversité est détruite aussi.
Il détruit la biodiversité. Il émet grosso modo 30% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Donc il a un très grand coût environnemental. Il a un deuxième grand coût qui est sanitaire. Il provoque aujourd'hui beaucoup de surconsommation de gras, de sel et de sucre, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, un certain type de cancer colorectaux notamment, et puis une intoxication généralisée aux résidus chimiques, résidus de pesticides et microplastiques. Donc un gros problème de santé. Le chiffrage qu'on commence à faire des coûts pour la société, du point de vue de l'environnement et du point de vue de la santé, En France, ça représente à peu près 10% du PNB, ces coûts sociétaux que ne paye pas le consommateur. On considère que quand on achète 100 euros de produits alimentaires, en fait, il y a entre 100 et 200 euros de coûts pour la société, 40% pour l'environnement, pour réparer l'environnement, 40% pour réparer la santé. Et puis, on dit à peu près 20% pour les dimensions sociales, d'inéquité, etc. Mais on a beaucoup de mal à les évaluer. C'est sans doute très sous-estimé. On a installé, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un système industriel avec beaucoup d'institutions qui encadrent et qui ont mis en œuvre ce système. C'est les engrais, les semences, c'est le machinisme agricole et l'irrigation. Mais ça, on accompagne aussi des structures d'accès au foncier, au crédit, au conseil, à la recherche, à la formation, à l'assurance, aux infrastructures, aux organisations professionnelles. Tout un ensemble d'institutions qui ont fait émerger et fait se développer un système industriel et qui aujourd'hui ne savent faire que ça et ont énormément de mal à se réformer pour, en fait, construire un autre contrat social. Le contrat social qu'on a construit après-guerre, c'est nourrir la population le moins cher possible sans s'empoisonner dans les 24 heures, pour le dire de façon caricaturale.
Et pour le dire de façon caricaturale, on peut faire autre chose? C'est-à-dire qu'on peut nourrir tout le monde et de manière qualitative aujourd'hui?
Alors, toutes les prospectives alimentaires qui sont faites par diverses institutions et dans le monde entier nous disent que oui, on peut, mais à une condition, c'est qu'on va être obligé de réformer nos modes de consommation et aller vers des consommations beaucoup plus frugales, diminuer les consommations de produits animaux dans les pays et dans les endroits où on les surconsomme, ce qui n'est pas du tout le cas partout, et même en permettant à des pays qui consomment aujourd'hui peu de produits animaux d'en consommer davantage pour couvrir leurs besoins nutritionnels.
Pensez à l'Asie, par exemple.
Je pense à l'Asie, je pense à l'Afrique en particulier. On peut arriver à cette équation, effectivement une équation difficile, parce qu'elle suppose un changement important des modes de consommation. Aujourd'hui, le système, il est quand même verrouillé par ces acteurs. Il est verrouillé par les lobbies industriels de l'industrialisation de l'agriculture, par un certain nombre d'organisations professionnelles et par tout un ensemble d'acteurs qui ont construit un modèle industriel. Donc toute la question, c'est comment on change de contrat social.
Oui. Réforme ou rupture?
Force. Alors, c'est compliqué à dire. Probablement des ruptures successives par les crises qui arrivent et qui vont se multiplier. On vient d'en connaître. Hein. C'est la crise Covid qui n'est pas complètement indépendante de l'évolution des façons de produire. La crise énergétique et la crise notamment des engrais qu'on connaît avec la guerre en Ukraine. On voit que les crises vont provoquer des ruptures dans un certain nombre d'endroits et vont être des opportunités aussi pour faire bouger les choses. Mais évidemment, il faut le faire dans une transition dans laquelle on peut embarquer les acteurs qui sont aujourd'hui, qui verrouillent le système, pour arriver à construire un autre contrat social. Un contrat social dans lequel l'alimentation ne sert pas qu'à remplir nos ventres au moindre coût. L'alimentation sert à nous relier à nous-mêmes, c'est-à-dire c'est notre santé, c'est notre plaisir, c'est notre identité individuelle, c'est nos histoires. L'alimentation, c'est une façon de se relier aux autres. On se relie aux autres quand on va au marché, on se synchronise avec la société, quand on fait ses courses, bien évidemment quand on cuisine et qu'on mange ensemble. Cuisiner pour les autres, c'est leur demander de vous faire confiance, et puis c'est partager. Et c'est au fondement de la vie sociale. Hein. Depuis l'enfance, les règles commensales au repas sont les moyens de construire le lien social. Et puis enfin, c'est une façon de se relier à la biosphère. On se relie aux animaux, comment on les traite, puisqu'on les utilise et on les mange. C'est un moyen de construire des paysages. La planète a été complètement façonnée par l'agriculture. On a aménagé les terrasses, on a détruit la forêt, on a créé nos paysages. Et puis, on a réalisé qu'on était un animal symbiotique. On a un animal dans le ventre qui s'appelle le microbiote, qui assure notre santé mentale et physique, et avec lequel il faut qu'on apprenne à négocier notre santé pour les générations qui viennent. Donc si on dit l'alimentation, c'est se relier à soi-même, aux autres et à la biosphère, c'est ça qu'on appelle, nous, une écologie de l'alimentation. C'est une façon de voir l'alimentation comme une écologie, c'est-à-dire une science des relations. Alors on peut essayer de construire un contrat social pour en fait garantir aux générations futures de pouvoir continuer de manger comme ça.
Ce qui veut dire que la solution est plus politique qu'économique, puisque j'imagine que les systèmes très établis vont avoir du mal à changer, je dirais, par eux-mêmes, même si le discours que vous tenez est tout à fait inspirant. Comment on va faire bouger les choses? Il y a quelques systèmes, on a étudié le PNNS4, qui effectivement, c'est le ministère de la Santé, il y a des choses intéressantes pour un peu manger un peu moins de viande, augmenter les légumes, faire attention aux surfaces agricoles. Est-ce que c'est par ces outils-là, est-ce que c'est par des politiques, comment ça peut évoluer?
Effectivement, c'est un enjeu éminemment politique. Mais il ne faut pas tout attendre des politiques comme si, parce qu'ils avaient conscience qu'on a un certain nombre de limites, ils allaient tout changer. Un politique gère des rapports de force. Et aujourd'hui, les rapports de force, pour faire bouger et changer le système, ils ne sont pas favorables à ce changement. Ils sont verrouillés par un certain nombre d'acteurs qui ont construit leur richesse et leur pouvoir et leur puissance sur la base de l'ancien système. Donc il faut arriver à modifier les rapports de force. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de pistes intéressantes. D'une part, les villes, qui sont plutôt des rassemblements de consommateurs, abordent la question agricole et alimentaire autrement, avec des revendications de santé, de plaisir, de culture. Et donc, commencent à se saisir ou se ressaisir de la question alimentaire pour essayer de construire des politiques alimentaires, ou en tout cas des politiques urbaines d'alimentation durable, en jouant sur le foncier, en jouant sur les infrastructures de commercialisation, ce qu'on appelle l'urbanisme commercial, en jouant sur la gestion des déchets pour remplacer la fertilisation chimique par du rebouclage des cycles, comme ça s'est fait jusqu'à la fin du 19e siècle, pour travailler sur la lutte contre la précarité alimentaire, pour valoriser de la gastronomie locale. Donc, en fait, les villes se ressaisissent.
Sauf que c'est une ville autonome, c'est quasiment impossible aujourd'hui.
C'est une illusion.
D'accord. 3-4% d'autonomie dans l'agglomération grenobloise, on pourrait dire. Pour arriver à 50 ou 100%, c'est...
Une illusion totale, mais on a besoin de réconcilier et de remailler villes et campagnes qui aujourd'hui sont dans un grand malentendu. Donc de maintenir de l'agriculture dans ou autour de la ville, ça a un sens, mais plutôt un sens pour maintenir une relation entre citadins et agriculteurs, on va dire. Mais c'est pas effectivement l'agriculture urbaine ou périurbaine qui va nourrir les villes, sauf éventuellement dans quelques légumes et en produits ultra frais. Mais non, si on fait le calcul, ce qu'on appelle l'empreinte alimentaire, ben les villes, c'est des concentrations de population qui sont nourries par de la longue distance. Alors ça ne veut pas dire à l'autre bout du monde. Ça veut dire qu'on peut regarder en France, si on fait la cartographie des capacités des départements à se nourrir, la France a la capacité de se nourrir à peu près pour le déjeuner et le dîner, pas trop pour le petit déjeuner tant qu'elle consomme du thé, du café ou du chocolat qui sont quand même des produits du monde. Mais en tout cas, on voit qu'aujourd'hui, la moitié de la population française vit dans des départements dont la surface agricole ne serait pas suffisante à les nourrir si on devait reconvertir ces surfaces dans tout ce que mange la population des départements.
La moitié, vous disiez.
La moitié. C'est le bassin parisien, c'est tout l'arc méditerranéen, c'est le nord, c'est
Le plus densément peuplé, en fait.
Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut essayer de relocaliser un certain nombre de productions pour retrouver ce contact entre citadins et agriculteurs et renouer un nouveau contrat social avec eux. Mais ça doit se faire aussi un peu plus dans la distance, c'est aller chercher la nourriture dans quelques départements un peu plus lointains. J'aime beaucoup cette phrase de Bruno Latour qui disait « Le territoire n'est pas l'espace où l'on vit, c'est l'espace dont on vit ». Et donc ça veut dire que ça nous oblige à aller identifier nos territoires nourriciers, d'où vient notre nourriture, en sachant que c'est avec ces zones-là qu'il faut passer des contrats de solidarité pour qu'on accompagne des transitions agroécologiques de ces agricultures et que les villes se mettent aussi à contribuer, à financer, à échanger pour cela. C'est cette idée de contrat de solidarité entre villes et campagnes qu'on cherche à expérimenter.
Paradoxalement, passerelle vers l'agriculture, finalement, resensibiliser, enfin que les urbains se resensibilisent et sensibilisent aussi peut-être ceux qui produisent à quelque chose de différent, et en tout cas se reparler pour pouvoir justement répondre à cette demande qui évolue. Alors, c'est pas toute la population, hein, je pense qu'il y a une partie de la population urbaine qui a envie de changer. C'est toujours les chevaux légers, enfin les francs-tireurs, mais effectivement, ça bouge pas mal dans ce côté-là. Donc, c'est cette idée de recréer du lien, en fait, entre l'alimentation, la ville, la campagne et de pouvoir
réduire les malentendus, parce qu'il y a beaucoup de malentendus de part et d'autre, des agriculteurs qui ne comprennent pas des revendications qui leur paraissent absurdes de la part des consommateurs des villes et des citadins qui ne comprennent pas les contraintes que vivent les agriculteurs pour transformer leur mode de production. Donc effectivement, multiplier ces contacts, et ça c'est extrêmement important. probablement une production plus respectueuse de l'environnement et de la santé se traduira par des rendements un peu plus faibles, au moins dans un premier temps, le temps que la recherche se mobilise entièrement pour arriver à trouver des solutions pour garder des bons rendements. Donc probablement l'alimentation sera plus chère si on doit réinternaliser les coûts environnementaux et les coûts sanitaires dans ce que payent les consommateurs. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est les consommateurs qui doivent le payer aujourd'hui. On a 9 milliards d'euros qui arrivent chaque année en France qui viennent de la politique agricole commune et qui sont aujourd'hui plutôt pour entretenir le statu quo. Et donc il y a tout un enjeu de réformer cette aide que constitue l'aide de la PAC, la politique agricole commune, pour qu'elle serve complètement à la transition des systèmes agricoles et alimentaires. Donc là, il y a un enjeu politique. Et un des enjeux aujourd'hui, c'est d'arriver à construire un rapport de force contre, il faut le dire, contre les acteurs qui bloquent aujourd'hui cette transition, en tout cas l'accélération de cette transition, pour arriver à ce que, effectivement, dans les arbitrages politiques, on ait davantage d'incitation à la transition des systèmes. D'accord. Et malheureusement, je pense que ce sont les crises qui vont accélérer ça.
Je voudrais aborder un sujet d'actualité qui est la précarité alimentaire. Nous avons été confrontés à Societal Angels, en fait, par des demandes urgentes, en particulier de la Banque alimentaire, auxquelles on a répondu. On nous a aussi des fois opposé le fait que ce n'était pas suffisamment qualitatif, même si on a fait des efforts dans les achats de produits frais. Quelle est votre vision, en fait, de cette gestion de l'urgence? Parce que, par exemple, la Banque alimentaire, en très peu de temps, ils sont passés de 6 000 bénéficiaires à 10 000. Donc, en fait, comment on fait?
On a effectivement, depuis l'augmentation des prix et d'une façon plus générale, depuis l'accroissement des inégalités en France, une explosion de la précarité alimentaire et donc de ménages, de personnes qui n'ont plus les moyens suffisants pour accéder à une alimentation de qualité. À une époque, a été mis en place un système d'aide alimentaire qui s'est beaucoup basé sur les surplus de production industrielle, puisque l'Europe est en très très forte surproduction alimentaire, et donc a utilisé ces surplus pour nourrir les personnes pauvres. En situation d'urgence, c'est effectivement quand les gens n'ont absolument rien, l'aide alimentaire en produits, ça peut être une solution. Le problème, c'est que c'est devenu la principale et unique solution pour traiter tout type de précarité, y compris des précarités dans lesquelles l'enjeu, il n'est pas d'obtenir des produits, il est plutôt d'obtenir du pouvoir d'achat pour pouvoir acheter ce qu'on a envie d'acheter. Le problème aujourd'hui, c'est que l'aide alimentaire fonctionne beaucoup sur des surplus et sur des invendus de supermarchés, sur la ramasse, comme un moyen aussi pour les supermarchés de défiscaliser ce qui risque d'être leur perte. Et donc, ils ont une incitation à donner aux structures d'aide alimentaire. Sauf que le problème, c'est que les gens qui ont besoin de mieux se nourrir, ils se voient contraints, ils se voient imposer des produits qui ne sont pas forcément ce qu'ils ont l'habitude de manger, qui ne correspondent pas forcément à la culture, à leur culture, qui ne sont pas de bonne qualité gustative dans bien des cas, qui sont parfois de très mauvaise qualité nutritionnelle et qui entretiennent en réalité une dépendance vis-à-vis de structures qui veulent bien faire en essayant d'aider les gens, mais qui finalement, de fait, leur imposent une alimentation qu'ils ne choisissent pas. La plupart des autres pays du monde ont connu ces situations-là et ont transformé leur dispositif de solidarité en laissant aux gens la possibilité de choisir leur alimentation, c'est-à-dire en passant d'une aide en produit à une aide budgétaire. C'est-à-dire qu'on leur donne des coupons pour pouvoir acheter ce qu'ils veulent. Alors, on dit souvent, oui, mais ils vont acheter n'importe quoi. En fait, quand on regarde de près, ils n'achètent absolument pas n'importe quoi et ils savent parfaitement bien se nourrir. Et ce n'est pas en faisant des cours de cuisine aux pauvres, comme s'ils n'avaient pas cuisiné, qu'on va régler le problème. Donc aujourd'hui, il y a tout un mouvement d'un certain nombre d'associations qui ont beaucoup travaillé sur cette question et qui cherchent à proposer d'autres façons de lutter contre la précarité alimentaire en donnant, par exemple, accès dans des épiceries absolument standards à des prix différenciés, en permettant à des gens de pouvoir accéder à des produits à prix coûtant dans des groupements d'achat pour avoir un accès à une alimentation de qualité, mais sans que ce soit trop cher. Permettant aux gens de pouvoir cultiver dans certains espaces, de pouvoir cultiver eux-mêmes. Et en disant, en fait, à la diversité des situations de précarité, il faut une diversité des réponses. On ne répondra pas de la même façon à des gens qui sont dans la rue, ou à des femmes seules avec enfants, ou à des familles à très petit budget, mais qui ont quand même du temps de cuisiner, ou à des personnes âgées, ou à des étudiants, les réponses ne peuvent pas être les mêmes. Et donc, il faut qu'on diversifie les formes de réponse à la précarité alimentaire. Or, aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à faire évoluer ce dispositif qui reste majoritairement aux mains de quelques associations qui font de la distribution de produits et d'invendus, achetant parfois quelques produits, mais maximisant les quantités au détriment de la qualité. D'accord. Mais ça veut dire aussi qu'en termes d'efforts de redistribution publique, on n'est pas du tout au rendez-vous. Il n'y a pas assez de moyens qui sont consacrés à la lutte contre la précarité d'une façon générale.
Donc les idées de sécurité alimentaire, de sécurité sociale alimentaire ou de coupons sont des choses qui vous paraissent peut-être l'avenir. Bon, bien sûr, c'est urgence, hein, parce que là, il faut répondre à l'urgence. Mais en tout cas, à moyen terme, cette modification pourrait aller vers des systèmes socio-alimentaires.
Il y a un travail qui est vraiment très intéressant que je recommande de regarder, qui a été fait par ATD Quart-Monde et l'Université d'Oxford, qui a été une enquête dans 6 pays du monde par des gens en situation de pauvreté pour définir ce que c'est que la pauvreté. Et un peu contre toute attente, après 3 ans de discussion et 3 ans de mise en commun d'enquêtes faites par des personnes en situation de pauvreté, ils sont mis d'accord sur une définition de la pauvreté qui change beaucoup la façon dont on a vu cette question jusqu'à présent. Ce qu'ils mettent au cœur de la définition, c'est ce qu'ils appellent le dessaisissement du pouvoir d'agir. Ce qui veut dire que d'une vision qui était très économique, on manque de ressources, on manque de moyens, à une vision qui est beaucoup plus politique, on manque de possibilités d'agir, on se sent dessaisi de sa capacité d'agir sur sa propre vie. Et c'est ça qui est au cœur de la définition de la pauvreté, a conduit à cette idée... C'est notamment ça qui a conduit à cette idée de sécurité sociale de l'alimentation, c'est-à-dire la création d'une nouvelle branche de la sécurité sociale de la santé qui a été créée après-guerre et qui permettrait en fait à toute personne en France de disposer d'un crédit de 100 euros ou 150 euros par personne et par mois, permettant d'acheter une alimentation qui aurait été choisie par des citoyens localement. C'est-à-dire qu'ils se mettraient à discuter pour savoir de quelle alimentation ils veulent et qu'est-ce que ces 150 euros peuvent, à quoi ils donnent droit, à quel type de produit ils donnent droit. C'est-à-dire que ce n'est pas les experts ou ce n'est pas le ministère qui va décider, c'est les citoyens qui reprennent en main leur système.
On repart du local, comme les villes un peu, les
citoyens
qui veulent parler à la campagne.
C'est ça qu'on expérimente par exemple à Montpellier. La création d'un comité citoyen, aujourd'hui une 60aine de personnes, dont la moitié sont en situation de précarité alimentaire, qui discutent, qui conventionne des magasins sur la base d'une enquête qu'ils réalisent dans ces magasins. Qu'est-ce que vous y vendez? Comment vous traitez vos producteurs? Comment vous traitez votre personnel? À quoi vous êtes attentif? Ils ont élaboré une grille, ça a mis des semaines. Mais maintenant, avec cette grille, ils vont enquêter plein de magasins et ils décident, oui, vous pouvez avoir accès avec les 100 euros qu'on vous donne par mois. Donc il y a 300 personnes aujourd'hui qui disposent de 100 euros par mois en cotisant selon leur niveau de vie, entre 1 euro et 150 euros par mois. Donc les riches cotisent plus que ce qu'ils reçoivent tous les mois, et les plus pauvres cotisent moins et récupèrent 100 euros. Et avec ça, ils vont acheter dans maintenant plus d'une dizaine de magasins, de marchés, de producteurs, dans Montpellier. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a vu ce comité citoyen progressivement se former aux questions alimentaires. Essayer de comprendre comment fonctionne l'agriculture, comment fonctionne le système alimentaire, quels sont les problèmes d'environnement, de santé qui sont liés à ça. Et maintenant, débattent, et ils ne sont pas tous d'accord, loin de là, mais ils débattent et ils discutent, un peu comme ça a été fait pour les conventions citoyennes pour le climat ou les conventions citoyennes sur la fin de vie, par exemple. C'est-à-dire des citoyens qui se forment, s'informent, réfléchissent, débattent et font des propositions pour une démocratie plus directe. Elle ne remplace pas les autres formes de démocratie. La démocratie représentative, elle vient la compléter avec une vraie capacité des citoyens de reprendre la main sur leur système alimentaire. Et d'accord. Ça, l'hypothèse qu'on fait, c'est que ça peut contribuer à changer les rapports de force.
D'accord. Est-ce que c'est une transition vers le titre de votre conférence ce soir, Repenser le monde par l'alimentation, qui est très inspirant. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire quelques mots ?
À une convention citoyenne organisée par la région Occitanie, 120 citoyens tirés au sort de tous les départements, villes, campagnes, etc., rémunérés pour réfléchir à trois questions que leur propose la présidente de région. Comment améliorer le bien-être individuel et collectif ? Comment réduire la fracture sociale et territoriale ? Et comment redonner confiance dans la société et ses institutions ? Trois questions, grosso modo, comment refait le monde ?
Essentiel, oui.
Les citoyens se réunissent à Toulouse et commencent à débattre de ces trois questions. Et de quoi ils parlent ? Du début à la fin, ils parlent de nourriture, ils parlent d'alimentation, ils parlent de faire confiance dans la société, les institutions qui nous disent qu'on peut manger sans crainte. Fracture territoriale entre citadins et ruraux. Bien-être, avoir le sentiment de bien manger, de pouvoir choisir, de ne pas empoisonner ses enfants. En fait, ils ont parlé de l'alimentation tout le temps. Incroyable. Et c'est ça qui nous a inspiré cette idée qu'en fait, on peut repenser le monde avec les citoyens parce qu'ils font tous les jours, parce qu'ils font leurs courses tous les jours, parce qu'ils cuisinent tous les jours, parce qu'ils mangent tous les jours ensemble ou pas. Mmh. Et que c'est ça qui permet en fait de rentrer dans l'idée de refaire le monde. Ça ne veut pas dire qu'on va tout refaire par l'alimentation, mais c'est une façon de remobiliser chacun, parce que chacun fait ça. C'est plus compliqué de mobiliser les citoyens pour discuter de la forêt amazonienne, c'est loin d'eux, ils ne voient pas ce que ça veut dire. Alimentation, tout le monde sait de quoi on parle.
Ouais. C'est vrai qu'on devient ce qu'on mange, quelque part. Enfin, y a cette notion qui est très physiologique et très aussi inspirante, mentale, enfin, c'est notre esprit, enfin, tout est lié. En fait, mais c'est extraordinaire que ça puisse venir... ce n'est pas extraordinaire, mais... Ces grandes questions très compliquées, puis finalement on revient à la base, on mange pour vivre, donc repartons à la base, et c'est les citoyens qui réorientent finalement les politiques vers des choses finalement
en tout cas, qui très contribuent terre à terre,
en tout cas, qui contribuent à le faire.
Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on redonne tout le pouvoir aux citoyens, oui. Je veux dire, les citoyens peuvent avoir des revendications, mais il y a aussi un secteur économique avec des entreprises, il y a un secteur scientifique avec des experts, mais en fait l'enjeu c'est qu'aujourd'hui le débat il est confisqué. Et les citoyens, ils ont complètement perdu tout pouvoir pour orienter le système. Ils ne font que choisir dans les supermarchés, dans une gamme de produits de plus en plus importante, sur lesquels il devient de plus en plus compliqué de choisir, parce que les informations sont contradictoires, et ils sont perdus dans ce choix, dans cet hyper-choix. Et donc c'est aussi de redonner un peu de pouvoir aux citoyens.
Et sélectionner ce dont on a vraiment besoin, en fait, quelque part, pour bien manger, et donc bien vivre derrière.
Et c'est très intéressant de voir que le comité citoyen, quand il discute de ce qu'il veut manger pour lui ou pour ses enfants, il n'a pas forcément les mêmes propositions que ce que lui propose aujourd'hui le secteur alimentaire. Et donc de l'intérêt aussi de redonner la parole aux citoyens.
Finalement... Les grandes entreprises alimentaires vont réapprendre le marketing, alors finalement, puisque ce sont les gens...
Mais en fait, elles ont perdu le contact avec les consommateurs. Ouais. Elles passent par des intermédiaires qui s'appellent les boîtes de marketing, qui leur font des enquêtes, mais en fait, ils comprennent même plus que leurs consommateurs. Et ils ne comprennent pas pourquoi les consommateurs ont complètement perdu confiance dans l'industrie. Aujourd'hui, on a une grande crise qui commence de l'industrie agroalimentaire. Les marques sont en train de s'effondrer et les jeunes ne veulent plus aller travailler dans ces grandes boîtes parce que ça ne correspond plus à leurs valeurs. Et il y a beaucoup aussi de démissions et de gens qui veulent se reconvertir et qui sortent de ces boîtes. Donc on rentre dans une crise aussi de ce système-là, de tous les côtés. C'est la crise environnementale, mais c'est aussi la crise des industries agroalimentaires, c'est la crise des phytos, c'est la crise des engrais chimiques, c'est la crise du glyphosate, c'est la crise de l'obésité.
Vous avez écrit un livre collectif sur, vers une écologie de l'alimentation, 2021, je pense. Est-ce que vous auriez quelques conseils à nous donner pour lire... voir certains films pour nous sensibiliser ou en tout cas nous inspirer, nous donner envie de faire partie de ce mouvement de transition et d'explication de cette nouvelle forme d'alimentation et d'agriculture.
Je peux commencer par inciter à lire Une écologie de l'alimentation, d'autant plus qu'il est gratuit en ligne et qu'il n'y a pas besoin de... Alors, je ne sais pas si l'éditeur sera très content que je mette ça en avant, mais on a payé pour que le livre soit en ligne.
D'accord.
Il y a un petit film qui s'appelle La part des autres, qui me semble intéressant et qui est sur la question de la précarité alimentaire, qui mérite d'être vu.
La part des autres, d'accord.
Ouais, il y a des petits films de ATD Quarmonde et de l'Université d'Oxford sur la question de qu'est-ce que c'est que la pauvreté. C'est des tout petits films, mais qui méritent vraiment d'être explorés, qui sont vraiment intéressants. Bon, après, il y a plein de films, il faut regarder dans le festival alimentaire chaque année, qui propose souvent des films qu'ils ont soigneusement sélectionnés. Il y a souvent de très bonnes choses. Et puis, moi, je peux inciter à lire les ouvrages de Claude Fischler sur les enjeux alimentaires contemporains.
Il a fait la préface
de notre ouvrage. Il a écrit beaucoup de choses très intéressantes et depuis longtemps, il a relevé tout ça. Donc, aussi lire Claude Fischler. Bon, il y a une littérature de plus en plus abondante là-dessus, hein, effectivement.
Dernière question. Vous n'êtes plus Nicolas Bricas, mais vous êtes Harry Potter. vous disposez donc d'une baguette magique. Et donc, la première action que vous faites avec votre baguette magique demain matin, après votre conférence, parce que là, je sais que vous la préparez, donc vous êtes bien concentré.
Je finance la multiplication de comités citoyens dans les villes, dans les villages, dans les communautés de communes, citoyens tirés au sort, rémunérés, accompagnés pour réfléchir de quelle alimentation ils veulent aujourd'hui et pour leurs enfants. Et de faire remonter progressivement de toutes les régions, de toutes les zones françaises, des centaines de comités citoyens qui font remonter comment ils veulent manger demain. Et que ça serve de pression face au gouvernement, face aux entreprises, face aux lobbies pour dire voilà ce que la population veut, voilà comment elle veut construire son monde par l'alimentation. Et il me semble que ça peut être une force politique qu'on ne peut pas ne pas écouter.
D'accord. Écoutez, merci pour votre contribution.
Merci à vous.